petit G, prophétesse et bergère des femmes. Alors, c'est encore la tradition juive. Myriam enseigne également la Torah aux femmes d'Israël, et elle est considérée avec ses frères Moïse et Aaron, donc les trois, comme l'une des guides en hébreu de sa génération. Israël, alors voilà la phrase exacte dite dans la tradition, dans plusieurs traditions juives. Israël eut trois excellents chefs, ce furent Moïse, Aaron et Myriam. Alors que Moïse et Aaron dirigea l'ensemble du peuple, Myriam était le guide des femmes. On le trouve dans le Talmud, dans le Targum sur Miché, donc voilà, dans un certain nombre de textes, on retrouve ça. La guide des femmes, donc c'est elle qui notamment a fortifié les femmes hébreues pour aller visiter leur mari pendant la persécution par la paille. On en avait parlé un petit peu de ça, quand Pharaon dit « Puisque vous me demandez de partir, et ben vous allez faire deux fois plus de briques et en plus vous irez ramasser la paille. » Et à ce moment-là, les hommes, eux, ils se sont fait un peu berner parce qu'ils se sont retrouvés piégés par leur propre travail. C'est-à-dire que au lieu de dire ben, « Je vais continuer à avoir une vie familiale » épanoui, en disant « je fais confiance au Seigneur et je continue à rentrer chez moi », un certain nombre d'entre eux dormaient sur place, ils se couchaient quasiment sur place, en disant « comme ça je pourrais commencer plus tôt demain et on se prendra moins de coups de bâton ». C'est une peur finalement, là on voit une des faiblesses des hommes qui peut s'exprimer parfois, et dans ce cas-là, c'est Myriam qui aurait fortifié les femmes hébreues en disant « on va leur apporter de l'eau ». Puis en fait, elle cachait avec les autres femmes hébreues des poissons dans les cruches pour les nourrir. Donc symboliquement, elle leur apportait des sources d'eau vive, donc de la connaissance, elle leur apportait de l'amour, elle leur apportait et du poisson, ça va être aussi la connaissance, ça va être des grâces surnaturelles, voilà, toutes ces choses-là. On retrouve ça dans le Nouveau Testament aussi. Et elle a fortifié les femmes, et donc c'est les femmes qui se sont déplacées auprès des hommes et qui s'unissaient à eux entre les murets pendant les pauses. Enfin, voilà, il y a plein de détails pittoresques, mais elles ont continué à engendrer dans cette période de persécution. Il y a eu comme un entraînement du groupe de femmes pour pouvoir, dans ce cas précis, pallier une faiblesse chez les hommes quand il y a eu une période un peu dure, quoi. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un autre trait prophétique pour une femme d'arriver à détecter, tiens, les personnes autour de moi, et notamment les hommes, parce que c'est là que je parlais de la sponsalité, parce que quand on arrive bien à exploiter à fond la complémentarité homme-femme, et ben c'est génial. On arrive à voir, tiens, là, je sens que telle personne manque de recul et je vais lui apporter un peu d'eau vive en lui donnant le recul pour suggérer que la personne fasse un petit rééquilibrage dans sa vie et puis qu'elle reparte sur des bons rails, quoi. Voilà. Alors, partie suivante, le trait suivant de Myriam, je l'ai appelé la dernière place en vue d'une manifestation éclatante. Il est d'usage de boire 4 coupes de vin au cours du Seder, qui est une des cérémonies de Pessah, de Pâques, de la fête de Pâques juive. Et donc, il y a 4 coupes que les Hébreux boivent. Selon l'exégèse rabbinique, ça symbolise les différentes étapes de l'intervention divine dans la délivrance des Hébreux. Et c'est la 5e coupe de vin qui est celle que l'on verse pour le prophète Élie, qui est censé, dans la tradition juive, venir annoncer les temps messianiques. Et donc, effectivement, Jésus a repris cette tradition, et c'était complètement cette tradition-là, et là, cette 5e coupe, et ben, c'est là qu'il a dit « ceci est mon sang », etc. Et donc, il accomplissait toute la tradition, il montrait toutes les étapes de l'intervention divine, c'est ce qui se passe dans la messe, avec les étapes de la messe des deux tables eucharistiques, et où il y a cette coupe qui vient couronner le tout, comme le sang du Christ, ça va être la coupe aussi de la parole de Dieu dans la première table eucharistique, de ces textes qu'on va lire et qu'on va méditer, et qui va être comme un vin enivrant qui va tous nous éclairer, et il va y avoir un lien avec le prophétisme, c'est la coupe du prophète par excellence, ça veut dire que c'est ce à quoi vient s'abreuver le prophète pour être un bon prophète, quoi. Voilà les deux tables de l'Eucharistie. Et depuis les années 80, un certain nombre de juifs ont introduit une autre coupe, en plus de ces 5-là, qu'ils appellent la coupe d'eau de Myriam, au cours du Seder, cette cérémonie de la Pâque. Cette nouvelle coutume a été reprise, et cette coupe d'eau, c'est une coupe que l'on remplit d'eau, que l'on boit juste avant de se laver les mains et de passer au repas, aux deux tiers de la cérémonie. Et on voit que là, il y a un truc qui fait éruption, c'est, boum, la coupe d'une femme une grande femme qui est cette prophétesse. Voilà. Et dans la tradition chrétienne, on retrouve un petit peu ça, parce que on a un certain nombre de saintes qui ont été reconnues après coup, qui sont devenues docteurs de l'Église alors qu'elles n'avaient jamais quitté leur Carmel. On a petit à petit des dogmes qui sont promulgués sur la Vierge Marie, ce qui est complètement révoltant pour des protestants, par exemple, qui disent Dieu est seul médiateur, Jésus est seul médiateur. Qu'est-ce qu'une femme fait là, quoi? Et on voit qu'il y a eu un moment, une femme qui a pris la dernière place, et le Seigneur lui a dit, c'est bon, prends une place de choix. Vous voyez, c'est cette parabole de Jésus qui dit, il faut prendre la dernière place et on va te faire monter. Attends que le Seigneur te fasse monter. Le Seigneur, à un moment, révélera ce qui est caché au plus secret des cœurs et pour le faire éclater, quoi. Voilà. Alors, là, c'est des Juifs, toujours, qui parlent. La nature de la matérialité est d'être résistante, voire hostile au divin. Voilà, le monde qui nous entoure, c'est un monde qui est aujourd'hui hostile au divin. Il y a des épines, tout est compliqué. Donc, c'est hostile au divin, à la sainteté, à la spiritualité. Et traditionnellement, la conquête de la terre consiste donc en une guerre pour soumettre et éradiquer l'obscurité et la négativité. Donc, que ce soit en combattant des personnes, des régimes maléfiques, des systèmes de valeurs opposés à la morale et à la tradition. La mission des chrétiens et des chrétiennes, c'est de combattre toutes ces forces hostiles en supprimant cette nature matérialiste du monde et en y imposant un but et une finalité plus élevée, en disant on fait ça non pas pour le bien-être, mais pour le bonheur, pour le don de soi, pour voilà. Mais ça, c'est une manière plus masculine, je dirais, de transformer le monde, de s'attaquer frontalement aux choses. Il y a une deuxième manière de transformer le monde en une demeure divine, qui est une approche sans agressivité, en fait, en cultivant et en révélant la positivité inhérente à la création, en disant « regardez comme c'est beau », en suscitant, en fait. Et dans ces modes, dans ce mode, c'est pas imposer et vaincre, mais c'est travailler sur une manière plus intérieure et plus pénétrante de rehausser notre réalité pour la rendre plus divine, en fait, de dire « regardez à quel point, en faisant comme ça, en pensant comme ça, par des petites choses. » Finalement, voilà, pour faire bref, c'est la modalité masculine et féminine, en fait. Le mode masculin est celui vers lequel on va majoritairement. Dans nos sociétés, c'est plutôt le mode masculin qui prévaut. C'est surtout la rationalité qui compte, c'est de pouvoir démontrer les choses, etc. C'est pas l'intuitivité qui est premier aujourd'hui dans la plupart des entreprises. Il y a quelques endroits où l'intuitivité est plus développée, dans des milieux plutôt féminins, comme des mondes d'aide à la personne, tout ce qui est assistante sociale, tout ce qui est des endroits où c'est plutôt le lien interpersonnel qui va être premier, et où ça va être plutôt des femmes qui vont être là, et où le côté intuitif va reprendre le dessus, parce que de fait, c'est plus les hommes qui vont imposer ce côté très rationnel et très carré. C'est les énergies, en fait, masculines et féminines. Un certain nombre de juifs disent que ces rôles sont tous deux essentiels pour rendre le monde divin. Pendant un certain temps, c'est le rôle masculin qui est prépondérant, parce que quand le mal foisonne, il est nécessaire d'attaquer de front, de la manière la plus agressive possible. Et là, les hommes, ils vont dire « Ah ouais !» C'est dans la nature masculine de dire « Ouais, c'est un défi, on y va, on fonce !» C'est excitant pour un mec de se dire « Il y a un défi impossible, il y a un roncier énorme avec un dragon qui barre le château, on y va, on prend notre petite épée, notre bouclier, voilà. » Mais il y a un stade où l'humanité est prête à faire la transition des valeurs masculines aux valeurs féminines, en passant de l'autorité au dialogue, de la domination à la persécution et du pouvoir au dévouement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un moment, un basculement du monde, où c'est la femme qui va prendre la première place. Il est dit, dans un prophète, je crois que c'est Isaïe, mais je suis pas sûr, en ce temps-là, la lune brillera 7 fois plus que le soleil. C'est extrêmement important, ce passage-là. Voilà, on va reparler de la lune après. Je passe sur la partie suivante, répartition des charismes hommes-femmes. Alors, je vais raconter une petite histoire pour faire un break. Alors, une histoire juive, évidemment, ça c'est les plus croustillantes. Moi, j'aime bien les histoires juives parce que je suis ébahi de voir la sainteté et puis le côté saint de ces histoires qui sont très concrètes. Quand Dieu a-t-il diminué la lune? Et pourquoi nous demande-t-il d'apporter une expiation en son nom pour cela? C'est-à-dire une réparation. Le Talmud relate cette histoire. Le 4e jour de la création, quand Dieu fit les 2 grands luminaires, la lune se plaignit à Dieu qu'elle était de la même taille que le soleil. La lune dit à Dieu, « Souverain de l'univers, 2 rois peuvent-ils partager une seule couronne ?» Dieu répondit, « Va et fais-toi plus petite. » « Souverain de l'univers, lui dit-elle, parce que j'ai fait une demande légitime devant toi, devrais-je me faire plus petite ?» il lui dit, va, et tu régneras à la fois sur le jour et sur la nuit. Je trouve que ça, c'est vrai fort, parce que, effectivement, le jour, on voit quand même la lune, mais alors, la nuit, il n'y a pas de soleil, pour le coup. Elle lui dit, à quoi sert une lampe en plein jour? Des discutants. Il dit, va, Israël t'utilisera pour compter les jours et les années. En voyant que la lune n'était pas consolée, Dieu dit, apportez une expiation pour moi parce que j'ai diminué la terre. Cette lune met en évidence une lacune fondamentale dans la création. Comment deux rois peuvent-ils dominer également le même territoire? C'est très juste en fait. Tous ceux qui disent le bien et le mal sont équivalents, on ne peut pas concevoir deux personnes qui font un projet avec exactement le même rôle et la même place. Dans notre monde, il y a toujours un porteur de projet et quelqu'un qui va aider. Parce qu'il faut une tête, il faut une personne à qui on s'adresse. Et on ne peut pas imaginer que deux personnes qui ont des buts complètement opposés se soient mises autour de la table pour faire la création. En fait, c'est une idée qui, je dirais, qui reste complètement utopique parce qu'on ne trouve... Enfin, moi, j'ai pour l'instant pas trouvé d'exemple qui vérifie cette loi-là dans notre monde courant, quoi. Voilà. Dieu ordonne à la lune de se faire plus petite, ce qui implique qu'un des deux luminaires doit être plus grand, mais la lune se plaint que cette décision est injuste. Quels que soient les cadeaux et avantages qu'elle se voit offert, elle refuse de renoncer à sa demande. Dieu admet que la situation est injuste et fait un sacrifice expiatoire chaque mois pour réparer cette injustice. Donc à l'époque du retour du Messie, cependant, la lune retrouvera sa stature originale et sera restaurée dans sa pleine gloire. Et ça s'est déjà passé avec le Christ. Il y a un certain nombre de mystiques aujourd'hui, à qui Jésus ou la Vierge Marie parlent, qui montre toutes les fois où Marie, que c'est Marie qui aurait soutenu les apôtres pour écrire l'évangile, en leur disant « L'Esprit Saint vous demande d'écrire l'évangile », et qui a relu ce qu'ils ont fait. Il y a plein de personnes qui disent ça, en fait. Moi, ça m'a scotché que l'Esprit Saint lui aurait montré aussi Saint Paul et toutes les persécutions qu'il s'apprêtait à faire, et qu'elle a fait un jeûne de 3 jours sans manger ni boire, et elle a obtenu du Seigneur non seulement qu'il se convertisse, mais en plus qu'il soit translaté au ciel, ce qui est raconté dans 1 ou 2 Corinthiens 12, je ne sais plus, et qu'il ait des révélations tellement sublimes qu'en fait toute sa vie il puise dans ces révélations sublimes pour écrire les lettres et pour fortifier les communautés, parce que ce qu'il dit c'est quand même hyper spirituel en fait. C'est des choses où on se dit, mais comment il est capable de savoir tout ça? Il a un niveau spirituel qui est extraordinaire, vous voyez. Donc, effectivement, c'est des choses, c'est de l'ordre de la foi, parce que on peut dire, ces mystiques-là, je sais pas si c'est vrai, c'est des révélations privées, etc. Mais c'est quand même concordant, toutes ces choses qui montrent que la Vierge a eu un rôle extrêmement important, et a porté aussi les apôtres dans l'ère apostolique, dans les premières années au moins, et puis continue à porter l'Église. Il est dit aussi, quand la lune fut créée, elle était un joyau étincelant, elle ne faisait pas que refléter la lumière, mais elle la transformait et elle en révélait la beauté intérieure. Il en sera de nouveau ainsi, et bien plus encore dans les temps à venir. C'est Rabbi Isaac de Nomil, ma mère Schneck Merot, à chaque fois ici tous les rabbis qui ont dit des trucs, donc moi je me dis que c'est peut-être une manière aussi de demander qu'ils nous éclairent quand on le dit. Donc les femmes ont un lien fort avec la lune et avec la fête de la nouvelle lune. La lune symbolise métaphoriquement l'énergie féminine avec sa croissance, sa décroissement et son renouvellement mensuel. Et effectivement, il y a aussi le cycle féminin, il y a ce don que la femme fait par un mystère du ciel, du sang. Le sang, c'est la vie tous les mois. Et puis, c'est la vie que la femme donne gratuitement, quoi, comme une mère qui va pardonner sans relâche à ses enfants. Il y a quelque chose d'un don total et de cyclique, en fait, comme la lune qui passe par des phases où elle va être cachée, sa lumière va être presque ternie par le soleil, va être masquée par la lumière du soleil, et puis des phases d'ombre totale où il n'y a que la lune qui va resplendir. Et ça s'accomplit également au moment du samedi saint, où seule la foi de Marie a illuminé l'Église à ce moment-là. Il n'y avait qu'elle qui gardait en tête tout ce qu'elle avait reçu dans le cœur, et c'est comme un désert où elle allait puiser dans les trésors qu'elle avait dans le cœur en disant « bon, maintenant je vais m'en servir ». Et elle a fermé l'Église à l'époque, surtout le groupe de femmes, et on peut imaginer que c'est sous son impulsion que Marie-Madeleine est venue à 5h ou 6h du matin avec l'autre Marie, je crois, et puis qu'elles ont été témoins des anges et de tout un tas de choses. Donc la femme, un peu comme la lune, a une capacité plus intérieure à mesurer le temps, effectivement, alors que l'homme, c'est plutôt mesurer l'espace, se repère dans l'espace. La femme, c'est plutôt dans le temps qu'elle a une capacité d'être une référence dans le temps. qu'effectivement, il y a une fécondité lorsqu'elle sait s'effacer quand elle est vis-à-vis par rapport à un homme, comme Jeanne d'Arc, qui, c'est elle qui a resplendi dans un deuxième temps. Je pensais à Mercedes aussi, cette femme qui a inspiré Joël Guibert. Il parle de cette paroissienne qui l'a beaucoup touchée. Et voilà, on en parle maintenant parce que c'est lui qui est un grand prophète itinérant, qui fait des conférences extraordinaires et qui a écrit un livre extraordinaire, mais il n'arrête pas de dire, c'est un peu comme ma muse, c'est elle qui m'a recadré plein de fois, parce que le Seigneur lui a dit des choses, et elle me les a dit, et puis elle m'a élevé presque, voilà, comme la Vierge Marie, comme on trouve beaucoup de choses comme ça. Je crois que c'est Henri de Lubac qui avait une femme aussi, dont le nom m'échappe, qui l'a énormément inspiré, qui a écrit des choses prophétiques, et lui ensuite, comme grand théologien, a fait le lien avec le monde de la théologie, qui n'est pas tout à fait le même monde, qui peut être en lien avec le monde prophétique, mais là le Seigneur a choisi ce vecteur-là, d'avoir cette femme connectée au ciel et cet homme connecté aux autres hommes, notamment lors de Vatican II, quoi.